Vous écoutez, on lit pour vous.
Données pour créer un impact durable. Un texte d'Emmanuel Grill paru dans Bel Âge. Il existe différentes façons de donner pour soutenir la cause qui vous tient à cœur. Aperçu des différents types de dons planifiés que vous pourriez envisager. Le don testamentaire. On peut donner de son vivant ou à son décès. Il s'agit alors de dons testamentaires. Dans ce cas, le donateur indique dans son testament qu'il souhaite léguer un montant ou un bien, par exemple, à un organisme de bienfaisance, explique Jean-François Vinet, planificateur financier et conseiller en placement chez Gestion de capital Ascente Limitée. C'est une bonne stratégie pour réduire la facture fiscale de la succession, puisque celle-ci pourra bénéficier d'un crédit d'impôt pour don. Les titres cotés en bourse. Il est possible de donner une somme d'argent, mais aussi des titres cotés en bourse. Le donateur ou sa succession recevra un crédit d'impôt pour leur valeur marchande. De plus, ni le donateur ni l'organisme n'auront d'impôt à payer sur le gain en capital, indique Jean-François Vinet. Le don d'assurance-vie. Cela consiste à donner sa police d'assurance-vie à un organisme de bienfaisance ou encore à désigner ce dernier comme bénéficiaire de l'assurance-vie à notre décès. Si on donne la police de notre vivant, on recevra un crédit d'impôt pour chaque année où on aura versé une prime. Sinon, c'est la succession qui bénéficiera du crédit d'impôt pour le montant de la police reçue par l'organisme à notre décès. Le don immobilier. On peut effectuer un don immobilier à l'organisme de notre choix, un immeuble ou un terrain, par exemple. Même s'il s'agit d'une résidence secondaire, l'organisme ou le donateur n'aura pas d'impôt à payer sur le gain en capital. Le donateur ou sa succession bénéficieront d'un crédit d'impôt sur la valeur marchande de l'immeuble, précise Jean-François Vinet. Le don dans un fonds de dotation. En effectuant un don dans un fonds de dotation de notre vivant ou par testament, les intérêts produits chaque année par notre don contribueront à soutenir un organisme de bienfaisance. Notre don pourra donc durer dans le temps. Un crédit d'impôt est émis pour la somme donnée. Le don en nature. Si on possède un bien de valeur, on peut aussi envisager un don en nature. Une œuvre d'art, par exemple, une collection de timbres ou de pièces de monnaie, etc. Un reçu d'impôt sera remis pour la juste valeur marchande du don. La fiducie résiduaire de bienfaisance. Avec celle-ci, le donateur transfère un bien, des valeurs mobilières ou une somme à une fiducie, mais en conserve l'intérêt viager. Cela signifie qu'on peut continuer à utiliser le bien ou à recevoir le revenu de placement jusqu'à notre décès, tout en profitant immédiatement du crédit d'impôt. L'organisme recevra le bien ou le montant placé en fiducie à la fin de celle-ci, à notre décès par exemple. Outils pratiques. Pour mettre en place une stratégie fiscale plus avantageuse, il existe en ligne plusieurs calculateurs du crédit d'impôt qu'on peut recevoir avec notre don, comme ceux qu'on trouve sur calculconversion.com ou canadahelps.org. C'était « Données pour créer un impact durable », un texte d'Emmanuel Grill paru dans Bel Âge.
L'importance de l'apparence décortiquée, un texte d'Olivia Lévy et Catherine Enfield, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Certaines femmes soignent méticuleusement leur apparence, d'autres moins. Qu'est-ce que ça signifie? Élément de réponse avec la sociologue Chiara Piazzesi et la psychologue Kim Lavoie. L'influence du milieu. Le soin qu'on prend de son apparence est influencé par plusieurs facteurs, à commencer par le milieu d'où l'on vient. Ces comportements-là sont beaucoup, beaucoup influencés par l'attitude de la mère, souligne Kim Lavoie, professeure en psychologie à l'UQAM. Les filles peuvent autant suivre le modèle maternel que le rejeter à l'âge adulte. Les objectifs et le milieu professionnel comptent aussi pour beaucoup. Il est tout à fait normal de se comparer pour voir si on se rapproche de ces modèles de succès et de pouvoir, note Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l'UQAM. Des femmes peuvent aussi se faire belles pour plaire à leur partenaire, de peur qu'ils trouvent qu'elles se négligent. Quand on entend ce genre de phrase, c'est que la beauté est encore perçue comme un élément central pour les femmes, pour rester attrayante, visible, pour attirer les hommes, note Chiara Piazzesi, autrice de The Beauty Paradox, Femininity in the Age of Selfies. Et les femmes elles-mêmes, dit-elle, sont porteuses de ce discours. Construction sociale. Cette construction sociale vient des siècles de discours historiques présentant la beauté comme la qualité fondamentale des femmes en société, souligne Chiara Piazzesi. Au début du XXe siècle, les mères disaient à leurs filles que l'apparence du visage, le fait d'être bien coiffées et habillées, démontrait leur moralité, rappelle la sociologue. Et c'est encore très présent dans la socialisation des filles, dit-elle. Quand il s'agit de leur apparence, les femmes peuvent toujours en faire plus, rappelle Chiara Piazzesi. Un autre produit de beauté, une autre injection, une autre teinture. Je ne pense pas que ce soit la même chose pour les hommes, même si l'apparence physique depuis les 15 dernières années a pris de l'importance. Il suffit de se promener dans le rayon des produits de beauté à la pharmacie pour s'en convaincre. La pression est du côté des femmes. Libérée ou négligée? Pour Chiara Piazzesi, c'est une fausse opposition. Qu'est-ce que ça veut dire, se libérer? Est-ce que cela signifie qu'on n'est plus influencé par aucune des normes qui règlent la féminité? Selon la professeure, le discours sur la beauté féminine est tellement ancré dans la société qu'il est très difficile de s'en défaire, même si on arrive à consacrer moins de temps et d'importance à l'apparence. Pour Kim Lavoie, on départage la libération de la négligence lorsque c'est un choix. La négligence, c'est un comportement qui vient avec les gens qui ont perdu espoir, qui ont l'impression de ne plus avoir de contrôle sur ce qui arrive, explique-t-elle. Le legs de la pandémie. Il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux pour constater à quel point l'apparence occupe une place centrale chez de nombreuses personnes, notamment chez ces adolescentes qui dépensent des fortunes en produits de beauté. Pour certaines femmes, la pandémie a toutefois été l'occasion de revoir leurs priorités. En particulier, pour celles qui se faisaient belles pour plaire aux autres. Certaines personnes ont pu réaliser que, peu importe leur maquillage ou leur teinture, les gens autour d'elles continuent à les aimer de la même manière, résume Kim Lavoie. La pandémie a été comme une grande séance d'exposition et aussi l'occasion de revoir ses priorités financières. L'importance de la routine. Il existe différentes raisons de prendre soin de son apparence. Elles peuvent être externes, comme vouloir plaire. Mais on peut aussi le faire pour soi, selon Kim Lavoie, qui a continué de mettre du mascara pendant la pandémie. Parce qu'elle se trouve plus jolie ainsi, et parce que ça fait partie de sa routine. Quand ces comportements nous font plaisir et qu'ils s'accordent à nos valeurs, ils peuvent faire partie d'une routine salutaire, souligne la professeure. La routine permet de contrôler quelque chose sur lequel on a véritablement du pouvoir, dit-elle. Le pouvoir de l'apparence. Qu'on le veuille ou non, l'apparence compte à plusieurs occasions. C'est une réalité soutenue par plusieurs études. Les gens beaux, hommes autant que femmes, jouissent de nombreux avantages. Embauche, ascension sociale, salaire, relations amoureuses. Évidemment, la génétique a un grand rôle à jouer, mais le soin accordé à son apparence peut avantager les gens. Quelqu'un de propre et de soigné projette l'image de quelqu'un qui est probablement à son affaire, organisé, sécuritaire, résume Kim Lavoie. Attention, aux yeux de certaines personnes, être trop maquillé peut dégager une forme d'insécurité, souligne la professeure. Compliqué, tout ça. En savoir plus, source, enquête sur les dépenses des ménages, Statistique Canada, 3 700 $. C'est la somme moyenne dépensée par les ménages canadiens en vêtements, 2 303 $, et en soins personnels, 1 430 $, en 2021. Les dépenses en soins personnels sont restées les mêmes qu'en 2019, mais en ce qui concerne les vêtements, elles ont diminué. 3 344 $ en 2019. En 2021, les ménages ont dépensé 689 $ en produits de soins personnels, maquillage, soins de la peau, manucure, parfum, désodorisant et 515 $ en services de coiffure. Côté vêtements, les femmes et les filles dépensent 50% de plus que les hommes et les garçons, 844 $ contre 570 $. C'était « L'importance de l'apparence décortiquée », un texte d'Olivia Lévy et Catherine Manfield, paru le 15 décembre 2024 dans la presse.
Le point de non-retour est dépassé. Un texte de Marie Vastel, paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. Le cap climatique fatidique est maintenant franchi. L'année qui s'achève fracassera tous les alarmants records, s'annonçant non seulement comme la plus chaude de l'histoire, mais de surcroît comme la toute première à dépasser la barre du 1,5 degré centigrade de réchauffement planétaire. Un signal d'alarme que l'on aurait espéré catalyseur d'un urgent coup de barre international, mais qui, au lendemain d'un automne peu fertile au chapitre de l'action climatique, laisse au contraire présager des saisons de négligence subséquentes. L'Observatoire européen Copernicus vient de confirmer que le mois de novembre 2024 aura été le 16e des 17 derniers mois à enregistrer une température moyenne dépassant de plus de 1,5 degré centigrade, celle de la période pré-industrielle. Au-delà des frontières de l'Europe, c'est notamment dans l'est du Canada que les températures ont fracassé par la plus grande différence les moyennes des récentes années. Avec les conséquences à venir que l'on connaît, et les catastrophes naturelles que l'on subit déjà. La cible la plus ambitieuse de l'accord de Paris vient de voler en éclats. Certes, le réchauffement climatique ne se mesurera pas en une seule année, mais sur plusieurs. Reste que la trajectoire du réchauffement planétaire annonce une hausse d'au minimum 2,6 degrés centigrades si, et seulement si, les nations tiennent leurs promesses. Cela ne signifie pas que l'accord de Paris a été en frein, mais implique qu'une action climatique ambitieuse est plus urgente que jamais, prévient le service concernant le changement climatique C3S de l'Observatoire Copernicus. Si au moins la communauté internationale semblait du même avis, les conférences onusiennes de l'automne 2024 sur le climat viennent toutefois de se clore, les unes après les autres, sur fond de déception, voire d'inaction. Une COP29 ayant convenu d'une enveloppe d'aide climatique de la part des pays riches jugée si insuffisante aux yeux des nations en voie de développement que le Nigeria prévenait en quittant l'Azerbaïdjan qu'il serait irréaliste de leur demander en retour des objectifs climatiques ambitieux. Sans compter que la transition, vers une sortie de la dépendance aux énergies fossiles, sitôt intégrée en 2023, vient d'être évacuée. À Cali, en Colombie, la COP16 sur la biodiversité a achoppé, le quorum ayant été perdu au fil d'une nuit de pourparlers. À Busan, en Corée du Sud, les négociations en vue d'établir un tout premier traité de lutte contre le plastique ont carrément échoué après 5 étapes et 2 ans de conversations. Les 2 forums doivent reprendre leurs discussions à une date ultérieure. Et ce, alors qu'une étude nous apprenait qu'aux sécheresses, aux canicules et aux pluies torrentielles ravageant déjà le territoire, s'ajoutent des incendies ayant propagé une pollution atmosphérique telle qu'elle fait 1,5 million de morts par an. Le multilatéralisme a du plomb dans l'aile en environnement, malgré les plus troublants avertissements récurrents. Il demeure néanmoins la seule voie propice à convaincre les récalcitrants, si timides soient les gestes consentis. À l'ombre des difficultés économiques et d'une colère populaire nourrie par la hausse du coût de la vie, des gouvernements et des partis politiques délaissent la priorité climatique. Un pari électoral de courte vue, négligeant la facture dont ils hériteront inéluctablement pour réparer les dégâts des catastrophes naturelles. 25 milliards de dollars retranchés à la croissance économique canadienne l'an prochain. Et implanter des mesures d'adaptation au réchauffement du climat, les besoins atteignant plus de 5 milliards par année juste pour les municipalités au pays. D'autant plus que les citoyens n'ont pas pour autant sacrifié toute ambition en environnement. Au Canada, 70% d'entre eux souhaitent voir le prochain gouvernement fédéral en faire davantage, quel qu'il soit, selon un sondage léger mené pour le compte d'Équiterre. Les chiffres diffèrent entre les électeurs conservateurs, 50%, et ceux des partis progressistes, 92% chez les libéraux, et les néo-démocrates, 96% pour les bloquistes. L'aide aux agriculteurs, le soutien à la création d'emplois de transition et le financement du transport collectif ont davantage la cote que la réglementation des émissions de gaz à effet de serre, celles liées au plastique, ou la tarification de la pollution. Mais voilà simplement un judicieux rappel que la réponse à l'anxiété financière populaire ne passe pas simplement par le désengagement en environnement. Le respect de la promesse du gouvernement canadien d'atteindre la carboneutralité en 2050 récolte en outre 60% d'appui, quoique à peine 42% chez les partisans conservateurs. Face à la guerre en Ukraine, les pays de l'Occident ont convenu de mettre les bouchées doubles en dépenses militaires pour protéger l'Europe des visées impérialistes du voisin russe. La menace climatique est tout aussi existentielle. Les États du monde feraient bien de se le rappeler, car leurs populations n'ont pas pour leur part abdiqué, gardant l'espoir de déjouer les prochains pronostics fatalistes. C'était « Le point de non-retour est dépassé », un texte de Marie Vastel, paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le Cool Bees, une initiative du Japon, un texte d'information paru le 5 juin 2024 dans La Presse. Depuis plusieurs années, les travailleurs japonais délaissent le traditionnel ensemble veston et cravate pour une tenue décontractée durant la saison chaude. Appelée « Cool Biz » par le gouvernement japonais, cette initiative a été créée dans le but de diminuer l'empreinte carbone des climatiseurs et autres appareils de refroidissement. Autopsie d'un projet de société moderne qui aide la planète en changeant les mœurs. Les débuts du Cool Biz. C'est en 2005 que le ministère de l'Environnement japonais met en place un programme visant à encourager les employés gouvernementaux à s'habiller plus légèrement afin de limiter les besoins en air climatisé. La tendance se répand rapidement dans les entreprises du secteur privé jusqu'à devenir un événement annuel dès l'arrivée des premières chaleurs. L'idée et de régler les appareils de climatisation à 28 degrés Celsius. Une température certes élevée, mais qui se tolère avec les vêtements et les accessoires appropriés, comme des ventilateurs manuels ou électriques. Cet ajustement des habitudes quotidiennes des Japonais s'inscrit dans la foulée des mesures du protocole de Kyoto créé et adopté en 1997. Une vocation environnementale. Alors que les effets des changements climatiques se font sentir à travers le monde, une initiative comme le Cool Biz se démarque par son impact environnemental positif. Plutôt que d'augmenter la dépendance aux ressources énergétiques, le Japon encourage concrètement une forme de décroissance. En résulte, une réduction annuelle de plus de 460 000 tonnes de CO2 et, par le fait même, une diminution des dépenses dans ce secteur. Un avantage non négligeable pour ce pays contraint d'importer une grande quantité d'énergie combustible. Changer la culture au travail. Au fil des campagnes gouvernementales de sensibilisation pour augmenter l'adhésion au Cool Biz, les Japonais ont tranquillement intégré la tendance à leurs habitudes de vie. Aujourd'hui, la transition de garde-robe entre les mois plus frais et les mois plus chauds se fait naturellement. Il est également devenu attendu et accepté de se présenter chez des clients ou dans des réunions avec un look plus informel. L'industrie de la mode a vite embarqué dans la vague de cette nouvelle tendance. À titre d'exemple, la marque japonaise Uniqlo s'est adaptée en lançant des collections saisonnières caractérisées par des vêtements à l'allure propre et décontractée, faits de tissus respirants. Le Warm Biz. En parallèle, le gouvernement japonais a tenté de lancer le Warm Biz durant la saison hivernale, une initiative qui a toutefois connu beaucoup moins de succès. Le principe est tout aussi simple, s'habiller plus chaudement pour éviter d'augmenter le chauffage, qui serait réglé à un maximum de 20 degrés Celsius. L'engouement a été plutôt mitigé, les employés étant plus réticents à travailler au froid et à porter plusieurs couches de vêtements. Le saviez-vous? Selon l'UNEP, la surutilisation d'appareils de climatisation contribue au réchauffement climatique et à la hausse significative des températures des villes. Selon Mark Rudka, chef du service énergie et climat du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, des centaines de métropoles à travers le monde pourraient connaître des températures moyennes de plus de 35 degrés Celsius d'ici 2050, si les habitudes demeurent inchangées. Le phénomène est dû au fait que la plupart des climatiseurs utilisent des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbone, en plus d'être énergivores. Comme le montre l'initiative Cool Biz, des solutions naturelles existent pour diminuer la dépendance à la climatisation. C'était le Cool Biz, une initiative du Japon, un texte d'information paru le 5 juin 2024 dans La Presse.
Plus d'un aîné sur trois en situation de précarité financière. Un éditorial de Gisèle Tassé-Goodman, paru le 4 décembre 2024 dans Avenue.ca. Voici une lettre ouverte de la présidente du réseau FADOC en réponse à la chronique « Le mythe de la précarité financière des aînés » parue dans le quotidien La Presse du 28 novembre. Nous convenons au réseau FADOC que les Québécois et Québécoises qui atteignent de nos jours l'âge de la retraite ont souvent profité d'un contexte économique enviable au cours de leur vie active. Une certaine proportion des personnes retraitées a pu épargner et faire fructifier ses économies, assurant ainsi un taux de remplacement de revenus suffisant pour vivre une retraite confortable. Elles détiennent de nombreux actifs et il y aura un transfert de richesses aux prochaines générations, et c'est tant mieux pour la société québécoise, puisque de nombreux jeunes peinent aujourd'hui à se procurer une première propriété. Cependant, une autre partie de la population âgée de 65 ans et plus ne bénéficie pas d'une retraite aisée. il ne faut pas sous-estimer le nombre de personnes retraitées qui peinent à joindre les deux bouts en ce moment. Selon la mesure du panier de consommation, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus vivant en situation de pauvreté est inférieure à celle des autres groupes d'âge au Canada. Par contre, au Québec, d'après la mesure du faible revenu, 13 % des personnes de 65 ans et plus étaient en situation de pauvreté selon les dernières données disponibles, un taux supérieur à celui observé pour tous les autres groupes plus jeunes. Si l'on observe le revenu médian après impôt des personnes âgées de 65 ans et plus au Québec, il était de 27 900 $ en 2020, ce qui signifie que la moitié des personnes retraitées touchent moins que ce montant. Avec la hausse du coût de la vie, même si une personne n'a plus d'hypothèque sur sa résidence, vous conviendrez qu'une personne ne roule pas sur l'or avec des revenus de moins de 28 000 $ par an. Une donnée est encore plus frappante. Selon les années, 35 % à 40 % des personnes de 65 ans et plus québécoises touchent le supplément de revenu garanti. Cette prestation s'adresse aux personnes recevant la pension de la sécurité de la vieillesse et qui déclarent un revenu inférieur à 22 056 $. La majorité de ces prestataires font face à de l'insécurité financière et ce, presque quotidiennement. Ce sont des personnes qui peuvent être locataires. D'ailleurs, selon le portrait des personnes aînées de 2023, 16 % d'entre elles occupent un logement non abordable, soit 5 % de plus que les groupes plus jeunes. Ajoutons aussi des dépenses pour l'achat de lunettes, d'appareils auditifs ou d'aide à la mobilité pour celles dont la vision, l'ouïe et les facultés à se déplacer se détériorent en vieillissant. De celles qui doivent embaucher des services d'aide pour les tâches ménagères ou pour les travaux autour du domicile. Il existe des crédits, mais ils ne couvrent qu'un certain pourcentage de ces dépenses. De nombreuses personnes retraitées ont amélioré leur sort par rapport aux générations précédentes et profitent aujourd'hui d'une retraite confortable. Mais il ne faut pas oublier toutes ces personnes pour qui un chèque de 250 $ donnerait un peu de répit dans un monde où tout coûte plus cher. Un paiement unique ne constituerait malheureusement pas une solution durable. Au réseau FADOC, nous croyons qu'il est urgent de mettre en place des mesures plus structurantes pour soutenir les personnes aînées à faible revenu. C'était « Plus d'un aîné sur trois en situation de précarité financière », un éditorial de Gisèle Tassé-Goodman paru le 4 décembre 2024 dans avenue.ca.